Vous avez une bien belle robe, Florence.
On sera tous des garçons comme les autres ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de duo, de travestissement, de costumes, de Donna Summer, de Marcello Mastroianni, de Victoire, de César et même d'Hector Berlioz. Avec Guillaume de Tonquédec à l'affiche des Nuits d'été, le premier film de Mario Fanfani, portrait d'un acteur en travesti au cinéma, comme un contrepoint au père de famille petit bourgeois de la série télévisée Fais pas ci, fais pas ça, Benoît Lagan.
Nouvelle étape pour un comédien de théâtre, de cinéma, de télévision et même de radio. Guillaume de Tonquédec ne cesse de se renouveler, à poil dans Fais pas ci, fais pas ça, légèrement déshabillé dans le très drôle Dîner d'adieu. L'acteur se travestit au cinéma dans le très touchant Nuit d'été.
À 19h30, on retrouvera le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Ce soir, c'est Pénélope Bagieu, auteure et dessinatrice de bande dessinée. Puis 19h35, plateau pop et paillettes avec Brigitte qui signe à Bouche Que veux-tu. Deuxième album aux accents post-disco, soutenu par des textes à la préciosité 17e-iste, Hippolyte Babilotte.
Brigitte, c'est un disque de platine avec l'album Es-tu-même en 2011, Victoire de la musique 2012, catégorie Révélation scène, et aujourd'hui un nouvel album à Bouche Que veux-tu pour deux titres live ce soir dans le rendez-vous.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez qui s'ouvre sur le son du jour. Un slow, Zoé ?
Un slow, non, avec plaisir.
C'est votre son du jour et il est vintage.
Oui, Rain and Tears, des Aphrodite Child avec la voix très très reconnaissable de Demis Roussos. Demis Roussos qui s'est éteint à l'âge de 68 ans ce week-end, le même qui marque l'ascension au pouvoir en Grèce de Syriza, c'est cocasse. Demis Roussos, première période là, car avant d'être un grand habitué des émissions de Marité et Gilbert Carpentier, où il était invité autant pour sa voix que pour sa pilosité légendaire, Demis Roussos, c'était ce jeune grec qui, aux côtés du claviériste Vangelis, avait marqué la scène psychédélique dans les années 60 avec donc Aphrodite Child. En deux albums, les deux Grecs deviennent des stars, puis se séparent après un dernier album, 666, complètement expérimental, où l'on entend Irène Papa simuler l'orgasme. Demis Roussos, qui devient ensuite l'un des protagonistes de la variété internationale, inonde le marché de ballades exotiques, Forever and Ever, Goodbye My Love, Goodbye, etc. pour les années 70 et 80. Plusieurs titres en français comme
Quand je t'aime.
Merci. Puis il ne sort presque plus rien jusqu'en 2009 et il revient avec Demis, un album de rock pur où il se payait le luxe de chanter Who Gives the Fuck, chanson sur les émeutes post-crise à Athènes où il assumait « J'ai vendu 60 millions d'albums, je préfère faire un flop avec un bon disque qu'un bon disque pas bon. »
Et tout de suite, on passe au dossier du jour. Le Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris vient de signer un accord avec El Sistema. C'est un programme de l'État vénézuélien qui consiste à former massivement les jeunes enfants de la classe populaire à la musique classique. En 35 ans, ce système a permis à plusieurs millions de Vénézuéliens et produit plusieurs stars de la musique classique.
Oui, et le meilleur exemple, c'est Gustavo Dudamel qui dirige l'orchestre des jeunes Simon Bolivar, issus du Sistema, considérés comme les meilleurs du monde, tout simplement aujourd'hui, alors qu'ils sont tous issus des bidonville de Caracas. On parle donc du miracle vénézuélien. Tout a commencé il y a donc 35 ans avec le chef d'orchestre et économiste José Antonio Abreu, qui croit qu'on peut lutter contre la misère et l'isolement par la musique. Son programme est surnommé El Sistema, ce qui veut dire à la fois le système et le machin, le truc. Il est soutenu par le ministère, non pas de la culture, mais des actions sociales. Tout fonctionne autour du Nucléo, sorte de centre qui regroupe plusieurs orchestres de jeunes, voire de très jeunes, puisqu'on y forme les enfants à l'orchestre de manière très empirique, à partir de 2 ans, avec au début des instruments en papier, puis ensuite avec un instrument qu'on leur offre. Ils y passent plusieurs dizaines, jusqu'à 20-30 heures par semaine. Le système fonctionne tellement bien qu'il a gagné tout le pays, comme l'explique Victor Rojas, directeur du développement d'El Sistema.
On a plus de 500 000 étudiants dans plus de 400 nucléos. Les gens qui ont passé par le système, qui sont plus de 3 millions, plusieurs d'entre eux qui sont devenus les professeurs. Dans la constitution du pays, il y a les droits des enfants et des jeunes à la culture. Nous voulons que nos enfants et nos jeunes apprennent des valeurs qui sont enseignées dans l'orchestre et on est aussi concerné à éloigner cet enfant des drogues, de la délinquance, tous les dangers que la société d'aujourd'hui il nous pose. Le but n'est pas d'avoir 1 million de musiciens, c'est d'avoir des enfants. Ils sont l'opportunité de voir que les gens, la société, ils croient en eux.
Même si le but n'est pas de former des musiciens, El Sistema en produit énormément.
Oui, et tout à fait à rebours en fait, de l'enseignement de la musique classique traditionnelle en Europe. C'est-à-dire que tout le monde sait jouer en orchestre à la base. Et si il y a aussi des gens qui finalement se révèlent très bons, à ce moment-là, ensuite, ils bénéficient d'une éducation individuelle. Alors, le succès est fou. El Sistema s'exporte quasiment partout dans le monde, quasiment dans toute l'Amérique latine. L'Europe commence très sérieusement à s'y intéresser. Et car même si on n'implique pas intégralement ce système, il peut vraiment beaucoup apporter, comme l'explique le directeur du CNSM, Bruno Montovani.
Alors El Sistema, c'est un petit peu le contraire du Conservatoire de Paris. C'est-à-dire le Conservatoire de Paris, c'est un établissement où on dispense un enseignement très élitiste. Or El Sistema, c'est absolument le contraire. C'est un enseignement de masse, un enseignement collectif qui est dispensé dès le début, puisqu'il y a des programmes à partir de l'âge de 2 ans. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'au Conservatoire de Paris, on forme des solistes, des compositeurs, des chambristes, mais on forme aussi des professeurs. Or, on ne peut plus aujourd'hui enseigner la musique classique sans savoir ce qu'il se passe au Venezuela. Parce qu'il s'agit d'une approche totalement opposée, mais dont on peut sûrement tirer plein de choses, notamment dans l'enseignement de la collectivité. La France, on a souvent des individualités qui sont plus intéressante que les collectivités qui en découlent. On voudrait aussi que les futurs professeurs soient familiarisés avec des systèmes d'enseignement qui soient un brin plus collectif.
Pourtant, au Venezuela, là où le système est né, eh bien, El Sistema traverse actuellement une crise.
Oui, parce qu'il fonctionne bien, trop bien. Ça crée parfois des frustrations, puisqu'il y a des enfants qui aimeraient devenir musiciens. Or, il n'y a que 2 orchestres dans tout le pays professionnel qui fait qu'on peut gagner sa vie. Puis surtout, El Sistema est soutenu très massivement par le président Chavez. El Sistema est devenu peut-être trop politique. Il dépend beaucoup donc du président qui le finance quasiment intégralement. Le président qui mise sur El Sistema à défaut d'avoir une vraie politique économique pour sortir le pays qui est toujours dans un marasme économique et qui est de plus en plus violent. Victor Rojas, lui, se défend en indiquant que El Sistema reste le meilleur investissement aujourd'hui au Venezuela.
C'est inscrit dans les programmes sociaux de l'État. On investit dans les enfants et les jeunes. Et à la fin, je pense que c'est le programme le plus réussi. Parce que si vous voyez, on est en train de construire une nouvelle personne qui aura après sa place dans la société et qui sera quelqu'un qui puisse devenir quelqu'un qui aide le pays à s'en sortir. Donc je pense que c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire.
Voilà, alors prochain objectif déterminé par le président Chavez en début d'année, avoir 1 million d'étudiants dans les systèmes au Venezuela.
Peut-être des réactions de la part de nos invités, Brigitte ou Guillaume de Tonquédec.
Ouais. Je sais qu'il y a des associations qui font ça en France, alors elles sont un peu moins soutenues qu'au Venezuela,
ça, je peux imaginer,
malheureusement,
ouais.
Mais je pense à une association comme Chroma. En Seine-Saint-Denis, qui a un programme avec des établissements, qui fait participer les classes, les professeurs, qui a tout un programme qui est super. Je sais qu'ils ont beaucoup de mal, ils ont perdu des subventions Chroma en Seine-Saint-Denis.
Guillaume de Tonquédec.
Ben moi, je regrette que la même chose n'existe pas pour l'art dramatique. Alors, je suis un mauvais exemple, parce que j'ai réussi grâce à ça, mais grâce à une prof qui m'a apporté l'art dramatique en cours en 4e. J'aurais jamais osé pousser la porte d'un cours d'art dramatique. Et l'art dramatique est venu à moi grâce à cette prof et grâce à des initiatives comme celle dont vous parlez peut-être de El Sistema. Et je pense que même si on n'en fait pas son métier, de pouvoir faire d'un instrument, de pouvoir chanter, de pouvoir s'exprimer dans un art, que ce soit peut-être aussi l'art dramatique, ça permet d'avoir d'autres choses que des bonnes notes en maths, en anglais ou en français, et de peut-être se révéler d'une autre façon, c'est ce qui est très bien dit, que ça donne des valeurs et que les gens croient en eux. C'est merveilleux. Donc, plutôt que d'avoir des notes, de se révéler par autre chose, mais on devrait imposer l'art dramatique dans les classes.
Et tout de suite, on passe aux brèves, Zoé.
Et on ouvre avec la disparition aussi ce week-end d'une autre figure devenue légendaire. J'ai nommé Edgar Froese, c'est comme ça que ça se dit, pionnier allemand de la musique électro. Il se raconte que c'est après avoir rencontré son idole, Salvador Dali, que le jeune Edgar, alors adepte du rock psychédélique, s'est mis en tête de transposer totalement le surréalisme dans sa musique. Il s'entoure à Berlin de musiciens comme Konrad Schnitzler, Klaus Schulze ou Christopher Frack pour fonder Tangerine Dream, formation à géométrie variable dont il resta l'unique membre constant. Il donne la priorité à l'instrumentation synthétique et utilise les premiers en séquenceur capable de reproduire un son en boucle parmi ses albums phares Electronic Meditation en 70 et Phaedra en 74.
Virginie Despentes reçoit le premier prix Anaïs Nin pour son Vernon Subutex.
À la fois polar, fresque, sociale, comédie humaine qui traverse les dérives de notre société à travers l'errance d'un ex-disquaire devenu SDF, pardon. La romancière et réalisatrice a été choisie au premier tour par 9 voix contre 3 à Leïla Slimani pour Dans le jardin de l'ogre. Le prix Anaïs Nin, c'est le premier prix littéraire français orienté vers le monde anglo-saxon puisqu'il est doté de 3000 euros et qu'il surtout permet aux romans primés d'être traduits en anglais.
Le Victoria et Albert Museum de Londres nie avoir dans son catalogue une représentation de Mahomet.
Oui, depuis les événements du 8 janvier, le musée londonien avait dit qu'il n'avait aucune représentation du prophète dans ses collections. Et pourtant, la semaine dernière, un expert américain a trouvé un dessin moderne iranien qui figurait au catalogue sous la description « Mahomet, prophète de Dieu » qui a aussitôt disparu de la base de données. Une porte-parole du musée s'est excusée, elle a évoqué une erreur honnête puisque pour elle, il y a un niveau d'alerte très fort et que le bâtiment est très en vue.
Eh bien, c'est la dernière.
La dernière, c'est une histoire de barbichette, Laurent. Et une histoire d'histoire avec un grand H, de gros fail, d'archéologie. Alors, vous connaissez sans doute tous le magnifique masque funéraire de Toutankhamon, qui est un peu le symbole de l'archéologie égyptienne, qui est l'œuvre phare du musée des Antiquités du Caire. Eh bien, il a pris un sacré coup, le pauvre, là, il y a quelques mois. C'est à la fois à faire pleurer et à faire rire. Alors, en fin d'année, il y a des employés du musée du Caire qui ont voulu réparer l'éclairage défaillant de la vitrine où on expose ce masque, et puis, du même coup, donner un petit coup de plumeau. Et pour ce faire, ils ont sorti la merveille de plus de 6 kilos, vieille de 3000 ans, de son habitacle. Alors, dans des circonstances assez floues, nos Gaston Lagaffe se rate, puisque le masque touche une paroi, manque de tomber, il est rattrapé in extremis par sa barbichette. Merveilleuse petite barbichette tressée. Et évidemment, cette barbichette casse. Déjà, c'est pas très glorieux. Mais alors ensuite, l'employé panique. Il panique tellement qu'il décide de réparer ça, ni vu ni connu, à la glu, à la colle. À la colle, au lieu d'avoir donc, au lieu d'utiliser une colle lente, ce qu'on utilise d'habitude pour ce genre de restauration, il met de la colle. Résultat, il y a énormément de grumeaux autour de cette recollation. Pour essayer d'enlever ces grumeaux, il gratte même un peu le menton, ce qui abîme encore plus le masque. Bref, c'est ce qu'on appelle la loose, hein, on peut le dire tout simplement. Le ministère des Antiquités égyptiennes, très gêné, a demandé une enquête pour apaiser la polémique. Aujourd'hui, Christian Eckmann, spécialiste allemand de la conservation archéologique des objets métalliques et en verre, a déclaré lors d'une conférence de presse « Le masque n'est pas en danger. Les mesures qui ont été prises sont réversibles. La communauté scientifique, elle, a du mal à le croire. »
Merci Zoé, eh bien on se retrouve demain pour la suite de ce journal de la culture. On commence tout de suite.
Le rendez-vous, la session.
Et on commence en ce lundi en musique, session pop et paillettes avec Brigitte, un groupe d'auteurs, compositrices, interprètes découvertes en 2010, victoire de la musique en 2012. Brigitte est actuellement en tournée avec son deuxième album, À bouche, que veux-tu, Hippolyte.
Alors, Aurélie Saada, Sylvie Oaro, qui ont retiré toutes les deux leur poncho 2.0. On vous écoute tout de suite en direct du studio 108 de la Maison de la Radio. Titre Le Déclin, un extrait de votre nouvel album À bouche, que veux-tu, paru chez B-Record. Brigitte, c'est à vous.
Quand m'as-tu dit je t'aime pour la dernière fois? Comment sais-tu je t'aime la toute première fois? Est-ce que ça reviendra? Ressens-tu encore le frisson sur la peau? Quand sans le vouloir ma main passe dans ton dos, est-ce que ça te fait chaud? Piètre danseur, pourtant tu ne me lâchais pas. Je t'ai même entendu dire que tu aimais ça. Est-ce que ça reviendra? On se moquait du sommeil, tu ne dormais pas. tu étais prêt à tout, à n'importe quoi, pour ne pas te passer de moi. Chaud dans ta veste trop grande pour moi. Tu étais le plus beau, mon sac à ton bras. Sans tes gestes, j'ai un peu froid. J'aimais faire semblant de dormir dans tes bras, en kilos et courage, tu ne bougeais pas. Est-ce que ça reviendra? Te souviens-tu comme on se trouvait jolie? Il y a l'amour et puis il y a la vie. Son plus grand ennemi.
Aurélie Saada et Sylvie Haro à la guitare, c'était Le Déclin, un titre qu'on peut retrouver sur votre album À Bouche, que veux-tu, paru chez Bay Records.
On vous retrouvera eh bien, dans quelques instants avec un autre titre et pour quelques questions qu'on a à vous poser.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Guillaume de Tonquédec, vous connaissiez Brigitte?
Oui, j'adore parce que c'est tout ce que j'aime, c'est des voix magnifiques, j'adore les belles voix, et il y a également une implication absolue et énormément d'humour. Donc voilà.
Le groupe
et des histoires.
Le groupe préféré de François Hollande, si j'ai bien lu un entretien. C'est ça?
Oh, c'est drôle.
C'est ça, hein?
Non, j'ai eu une petite... Une fois, oui.
Une aventure?
Non, mon Dieu. Oh non,
voilà. Non, mais qu'est-ce que vous allez imaginer?
Non, c'est une aventure, oui, c'était rigolo. On me l'a présenté, on m'a dit, vous voulez rencontrer le président? Alors j'ai dit, oui, c'est quand même fou de rencontrer un président. Et là, monsieur le président sort son téléphone portable, et dans son téléphone portable, il me dit, regardez, je vous adore, regardez. Et il me montre son iTunes, et dans son iTunes, il y avait un disque. C'était notre album.
Une belle histoire. Plateau cross-dresseur avec vous, Guillaume de Tonquédec, comédien pour quoi qui commence à la fin des années 80, théâtre, télévision, avec bien sûr un rôle qui vous a fait connaître du grand public, celui de Renaud Lepic dans la série télévisée Fais pas ci, fais pas ça sur France 2. Sans oublier le César du meilleur acteur dans un second rôle en 2013 pour Le Prénom. Et aujourd'hui, double actualité, un dîner d'adieu au théâtre Édouard VII à Paris depuis septembre dernier. Et mercredi prochain, vous serez à l'affiche des Nuits d'été, le premier film de Mario Fanfani. L'histoire en deux mots. Benoît Lagane.
Alors, on est en 1959. La France se déchire. Non, il faut en dire un petit peu plus quand même. La France se déchire autour de la question de la guerre d'Algérie. Michel, c'est vous. Vous êtes un notaire respecté de Metz qui envisage une carrière en politique, marié, un enfant, une vie plutôt tranquille, mais qui en cache une autre. Tous les week-ends, dans sa maison de campagne, Michel se travestit et devient Mylène avec l'aide de Jean-Marie, interprété par Nicolas Bouchaud, un ancien camarade de guerre, styliste, travesti expérimenté et animateur de cabaret. Bande annonce.
Je reste aux épicés à quelques jours, j'ai un gros dossier à traiter. Je serai plus au calme.
Quand tu travailles pas, tu chasses, et quand tu reviens de la chasse, tu travailles. Michel me trompe.
Ah, Michel aime la campagne, tout simplement.
T'es folle, tu veux que toute la ville soit au courant?
Il commence sérieusement à me casser les bonbons, la bourgeoise.
Vous avez une bien belle robe, Florence.
Un petit couturier, un passe-cour au puits.
C'est un génie.
Oh, il y a un peu de la jaquette.
On arrête tout. J'y arrive plus.
Alors c'est qu'un jeu.
Tu sais bien que non.
C'est ça. Je suis rien du tout. Un pauvre type qui n'a rien à prouver.
Je sais rien, je comprends rien et je reste là comme une idiote.
Je t'aime, Ilham.
Tu dois me croire.
J'ai connu un homme marié, comme vous. Juste quand son désir devenait trop pressant, il devenait Juliette. On va faire de toi la toute sublime, une vraie star. J'ai aimé Jules, et j'ai aussi aimé Juliette. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'était qu'une seule et même personne.
Guillaume de Tonquédex, double rôle Michel Mylène, vous a plu, je sais, la lecture du scénario et pourtant vous avez tenu à faire des essais alors qu'a priori c'était bon pour vous. C'était une des conditions pour avoir le rôle. Pour quelles conditions, pour quelles raisons vous avez voulu faire des essais?
Parce que j'ai été très touché par la lecture du scénario de Mario Fanfani et par la rencontre avec lui. Et je voulais être à la hauteur de l'histoire, c'est-à-dire je ne voulais pas qu'on me choisisse pour de mauvaises raisons, première chose. Et deuxième chose, je voulais vérifier si j'aurais le courage de passer au-delà ou en deçà de ma pudeur pour jouer ce personnage. C'est-à-dire que je ne voulais surtout pas que ce soit ridicule. Il faut que le personnage puisse toucher pour convaincre. Donc, il faut se laisser aller à l'humanité de cet homme et se laisser porter par son histoire et surtout pas la déformer. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vérifier si j'étais l'acteur de la situation.
Et en quoi l'essai a-t-il consisté ? D'abord en Mylène, puis en...
J'ai demandé à passer les essais dans les deux. Au départ, Mario, on avait très peu de temps. Il fallait qu'il prenne une décision rapide. Le tournage était quelques semaines plus tard. J'ai demandé vraiment à passer dans les deux. Donc, on a commencé en Mylène. Il a apporté une robe, des talons aiguilles, une perruque. Et puis, on m'a maquillé. Et donc, je suis parti en improvisation sur des scènes tirées du film. Et je me suis complètement... Ouais, pendant 2h30, ça a duré 2h30.
Ah, 2h30 d'improvisation.
Wow.
Improvisation et de scènes tirées du film ouais. Voilà, pour vérifier, pour essayer de passer du personnage féminin au personnage masculin.
Qu'est-ce qui vous a aidé ? C'est le costume qui vous a aidé ? Les talons ?
Le corset.
C'est le corset.
Pendant la séance d'essai, j'avais pas de corset. Mais après, une fois que moi j'ai vérifié pendant cette séance d'essai, d'abord aussi qu'on s'entendait bien avec Mario Fanfani, parce que c'est un rôle, il y a quand même tout à perdre pour un pauvre acteur qui a trouvé enfin la popularité alors que ça fait 40 ans qu'il attend. Il y a quand même tout à perdre à se lancer dans une aventure comme ça. Mais il y a aussi tout à gagner parce que c'est un rôle exceptionnel et une envie que j'avais d'aller dans d'autres directions que celles qu'on m'aurait immédiatement proposées avec ma tête d'enfant sage et bon en maths et en anglais et de genre idéal. Donc, après, ce qui m'a aidé en effet, c'est les accessoires, c'est-à-dire que j'ai demandé à avoir pour me préparer un corset qu'on m'a fait pour moi, que je pouvais me nouer tout seul et des talons aiguilles à ma pointure. Donc je m'entraînais tout seul à voir si je pouvais marcher sur des talons aiguilles et tenir cette posture.
Sans être ridicule, tout à fait. Benoît Lagan.
Oui, Guillaume de Tonquédec, pour travailler et préparer le rôle, votre Bible était Casa Susana, un livre de photographie américaine qui a servi de base au scénario. Quelles photos en particulier ont pu vous aider à penser votre personnage ?
D'abord, c'est quoi ce livre ?
C'est un livre extraordinaire d'un quelqu'un qui a trouvé dans un marché aux puces des cartons entiers de photos d'hommes transformés en femmes dans les années 50-60 aux États-Unis. Ils étaient dans un frigidaire. Ces photos étaient dans un frigidaire. Et il n'y a évidemment aucune explication, aucune adresse, aucun nom, rien du tout. C'est totalement anonyme et certainement fait pour être caché. Donc l'auteur, celui qui a trouvé ces photos, a décidé d'en publier une centaine, ses préférés. Et on voit au fur et à mesure de ces photos sans légende, c'est ça qui est très touchant, c'est qu'il n'y a pas de légende, pas d'explication, c'est donné comme ça. On voit des gens qui se dégagent, peut-être le propriétaire de cette maison dans laquelle Casa Susana, ces transformations avaient lieu, des personnages qui reviennent et ils se livrent tous à des activités de femmes. Ou ce qu'ils pensent être des activités de femmes. Il n'y a aucune recherche d'une autre sexualité. C'est vraiment, ils jouent au Scrabble, ils arrosent les fleurs, ils vont se baigner. C'est extraordinaire parce qu'on croit voir des personnages féminins. Moi, j'avoue qu'après, c'était un exercice que je faisais comme ça pour m'amuser. Je regardais des femmes dans la rue en me demandant quelle était leur part de masculinité et inversement sur des hommes. C'est très, très troublant. C'est un livre magnifique.
Est-ce que vous avez vu aussi le documentaire de Chantal Poupeau, Crossdresser?
Non, j'en ai entendu parler, mais je ne l'avais pas vu.
Parce qu'il avait servi de base même pour son fils, qui avait interprété un travesti aussi, enfin un crossdresser dans le film Laurence Anyways de Melville Poupeau.
Il est super.
Mais j'ai l'impression que le travestissement dans un autre sexe, c'est peut-être la composition la plus excitante, la plus dingue finalement quand on est acteur. Non, je ne sais pas, ça a l'air de faire ça.
C'est super excitant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très, très drôle à faire. Et puis, d'ailleurs, la première fois que j'étais transformé en femme pour le film, il n'y avait pas de miroir. Ils voulaient tous travailler tranquillement, me mettre une perruque, du maquillage, la robe. Puis, à un moment, j'ai dit, bon, maintenant que c'est fait, j'aimerais bien, moi, commencer à travailler. Montrez-moi le résultat. Et donc, quand on m'a mis un miroir devant moi, j'ai eu un fou rire inextinguible. C'est-à-dire, mais d'émotion, j'ai été surpris par une possible femme que j'aurais pu être. J'étais vraiment très, très touché. J'ai peut-être vu aussi une image de ma mère ou de mes sœurs. Et j'ai pas pu parler pendant quelques instants. J'étais très gêné parce qu'il y avait des gens. Puis après tout, je me suis dit, c'est bien, ça veut dire que le personnage est là, quoi. Cette émotion est nécessaire à l'interprétation du rôle.
Alors, vous partagez dans le film de nombreuses scènes avec Jeanne Balibar, qu'on a entendu, hein, sa voix, bien sûr, très reconnaissable
très
dans les
aussi.
Extraits. Et à son sujet, c'est curieux parce que vous dites qu'elle n'a pas du tout la même façon de fonctionner que vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et que vous avez beaucoup appris à ses côtés. Bon, ça, on le dit toujours, mais.
Non, mais c'est vrai, parce qu'en l'occurrence, moi, je suis un trouillard, j'ai besoin de répéter, j'aime bien être rassuré par ce qui va se passer. Et Jeanne, elle, qui avait bien compris mon angoisse, certainement, m'a proposé un système inverse, c'est-à-dire que moi, j'aime bien, pendant qu'on se prépare, qu'on se maquille, etc., dire le texte, juste pour vérifier qu'on le sait, quoi, sans forcément... Elle, au contraire, me disait, mais qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui? C'est quelle scène? Ah, c'est ça? Ah non, c'est pas demain qu'on fait ça? Ah oui. Je ne sais plus si je connais le texte et tout. Donc, un désir de ne surtout pas répéter et de laisser venir ce qui va arriver. Et c'est en effet une solution très agréable, d'autant que Mario Fanfani,
le réalisateur,
a adhéré totalement à ce système et qu'il est plutôt pour aussi. Il y avait un cadre proposé, puis après, on se lançait, quoi. Donc, c'est abyssal pour un comédien comme moi qui aime bien être rassuré, parce que je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Et petit à petit, du coup, j'ai beaucoup appris, comme je le disais, de cette méthode et de Jeanne, parce qu'elle fait semblant de ne pas y être, de ne pas connaître le texte. Et évidemment, elle a travaillé comme une folle et elle sait tout par cœur. Et elle vous surprend et on se surprend soi-même, on se surprend l'un l'autre plutôt. Et du coup, c'est très passionnant, quoi.
Aurélie Saada, on vous a vu au cinéma, notamment dans Foun de Benoît Pétret ou encore dans Toute la beauté du monde de Marc Esposito. Mais vous semblez, je crois, préférer la réalisation en fait, d'être comédienne. Pour quelle raison?
J'aime pas du tout être comédienne.
C'est vrai?
Non, ouais. J'ai fait ça avec mes copains quand j'étais plus jeune, mais ça me faisait marrer d'être avec mes copains. Mais moi, j'aime bien écrire des histoires, raconter des histoires, puis filmer les gens surtout. Donc oui, je fais ça maintenant.
Mais ceci dit, je rebondis sur ce que tu dis, je pense que les meilleurs metteurs en scène, directeurs d'acteurs ou directrices d'acteurs, metteurs en scène, puisque c'est le même mot, metteuses en scène, sont ceux qui ont déjà joué, qui ont déjà eu l'expérience du jeu, ils savent ce que c'est.
Oui, puis on aime les acteurs, on aime.
Ouais.
On aime.
Ouais.
Benoît Lagan. À propos de duo, vous en avez formé un particulier à la télévision avec Valérie Bonneton dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Et à ce sujet, j'avais une question sur cette série. Parce que la première saison, qui est diffusée il y a longtemps, entre 19h et 20h le samedi, a débarqué à la télévision avec une méthode un peu particulière. Vous étiez filmé comme
c'est
dans
une sorte de fausse télé-réalité.
Voilà, de fausse télé-réalité. Du coup, vous deviez en permanence jouer vos textes en regardant la caméra. Quel rythme ça a pu donner à cette série et peut-être au jeu et au duo que vous formiez avec Valérie Bonneton?
Ben, il fallait d'abord une grande vérité, puisque c'était soi-disant un documentaire. Les personnages acceptaient d'avoir des caméras chez eux pendant un an pour prouver que leur méthode d'éducation est meilleure que celle de la famille d'à côté, les boulets, les affreux boulets de gauche, même un peu, comment dire, verts, enfin atroces, quoi. Des choses inadmissibles, bobos, atroces, affreux. Et donc, il y avait une espèce de petite compétition entre ces deux familles. Et comme on était censé être filmé dans nos activités quotidiennes, il fallait une grande vérité de jeu, quoi, d'extrêmement simple, extrêmement direct. Et évidemment, ces caméras vont surprendre des choses qu'elles n'auraient pas dû surprendre.
Il y avait de l'improvisation ?
Il y avait, dans le texte, c'était extrêmement construit et écrit de la part de Anne Giaferri, qui est décidément un magnifique auteur et une excellente réalisatrice, parce qu'elle a réussi à retranscrire la vie, c'est ce qui est le plus dur à faire, sans donner d'explication et sans que ce soit explicatif. Et en plus, c'est drôle. Donc, c'était apparemment improvisé, c'est ce qu'il fallait donner comme impression.
Alors, avant la télévision et le cinéma, il y a eu véritablement le théâtre. Vous vous êtes formé au Conservatoire de Versailles, puis au cours Florent avant d'intégrer le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Vous avez eu comme professeur Michel Bouquet et Jean-Pierre Vincent, quels ont été les professeurs qui vous ont le plus marqué et dont l'enseignement vous sert encore aujourd'hui pour composer vos personnages?
Un peu tous. Moi, je dirais que j'ai fait mon marché un peu chez chacun. Mon professeur de première année, Pierre Vial, qui est un acteur, metteur en scène, qui a été chez Vitesse notamment, était sans doute le plus grand pédagogue que j'ai rencontré dans cette maison sur les trois années, qui vraiment respectait profondément l'être humain qu'il avait en face de lui et lui donnait la chance d'éclore. Et puis après, évidemment, Michel Bouquet est un maître que j'ai croisé encore il n'y a pas très longtemps, dont les préceptes ou les paroles me suivent encore maintenant. Un jour, je me souviens, il était en colère contre deux copains qui avaient mal joué leur scène. Enfin bon, et il s'est mis à hurler. Il a dit, mais moi, je ne suis qu'un simple interprète et je suis là pour vous donner quelque chose. Vous comprendrez ce que je vous dis peut-être dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Et il avait raison. Il y a des choses qu'on comprend en pratiquant, quoi, qui viennent plus tard. Et puis il avait une science de l'art, d'aborder l'art de l'écriture des auteurs exceptionnel. Donc c'est quelqu'un qui continue à me nourrir. Et Jean-Pierre Vincent, le metteur en scène et directeur d'acteurs.
Dans quel répertoire vous distribuez le plus facilement avec votre tête de premier de la classe, comme vous l'avez dit tout à l'heure?
La première fois que j'ai joué de la tragédie, ça devait être Britannicus, tout le monde était mort de rire, je me disais qu'est-ce que j'ai fait, et j'étais désespéré moi, et plus je continuais, plus les gens étaient morts de rire, donc je me disais c'est peut-être plutôt vers la comédie qu'il va falloir que je me tourne, mais en fait c'est le même système, hein, pour jouer une bonne comédie, il faut savoir jouer la tragédie, parce que très souvent ce qui arrive au personnage est une tragédie, hein, mais ça fait rire les autres.
Benoît.
Alors chaque soir, nous demandons à nos invités de nous soumettre un son, et en ce qui vous concerne, Guillaume de Tonquédec, voici ce que vous avez choisi.
Mais voici la victoire de ce silence atrocement payé. Le destin bascule. Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses, regarde de tes yeux disparus toutes ces femmes noires qui veillent nos compagnons. Elles portent le deuil de la France et le tien. Regarde glisser sous les chaînes nains du Quercy, avec un drapeau fait de mousseline nouée, les maquis que la Gestapo ne trouvera jamais parce qu'elle ne croit qu'aux grands arbres.
Me faisait peur quand j'étais petit.
Identification de ce son.
Entre ici Jean Moulin. Ouais. C'est André Malraux qui accueille les cendres de Moulin au Panthéon. C'est un moment de théâtre exceptionnel. C'est quand même un ministre. Qui se lance dans une déclaration d'art oratoire exceptionnelle. Enfin, moi, c'est très touchant. C'est Madeleine Marion, comédienne spécialiste de Paul Claudel. Je travaille avec elle sur Paul Claudel, qui m'a fait découvrir cet enregistrement. Et je lui ai demandé à réécouter une deuxième fois, tellement j'étais stupéfait par ce qu'il ose faire et par la... En plus, quand on voit les images, il y a une espèce de drap noir qui flotte au vent à côté de lui. Il y a quelque chose d'éminemment théâtral et d'une puissance verbale, enfin, extraordinaire, quoi. Et avec un texte extrêmement, enfin, très écrit dans un français parfait, très imagé. Et moi, ça me bouleverse et ça me transporte. Alors qu'on pourrait croire que c'est trop, quoi. Mais dans ces circonstances-là, c'est magnifique.
Le rendez-vous. Rendez-vous. Extérieur. Extérieur.
Brigitte et Guillaume de Tonquédec, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Et ce soir, dans la série Les professionnels de la profession, eh bien, c'est Pénélope Bagieux, auteure et dessinatrice de bande dessinée. On lui donne notamment la série des Joséphines et Stars of the Stars avec Johan Sfar. Questionnaire dessin, Pénélope Bagieux, Manu Farine.
La bande dessinée que vous associez à vos parents?
La bande dessinée que j'associe à mon père, c'est évidemment sa collection de Tintin, à laquelle je me suis intéressée, je pense, un peu trop tard, et du coup j'ai raté le coche. Je pense que j'avais soit commencé à perdre mon âme d'enfant, soit j'avais déjà un sens critique un peu trop aiguisé. Mais le premier Tintin que j'ai lu à 15 ans, c'était Tintin au Congo, et j'étais effarée. Et je trouvais ça évidemment raciste, mais surtout niais. Je pense qu'il faut commencer enfant ou jamais.
L'illustrateur ou le dessinateur ou l'artiste qui a pu vous donner envie de faire ce métier?
Je pense que c'était Xavry quand même. Mes parents, je pense, avaient la flemme de s'occuper de moi, et donc ils m'ont posé devant des VHS de Xavry quand j'avais peut-être 3 ans ou 4 ans. Je me disais, quand je serai grande, je serai Tex Avery, en fait. Et après, j'ai fait des études d'animation. Et ça m'a confortée dans l'idée qu'il n'y avait que le rythme qui comptait. Et finalement, je pense que ça s'applique aussi en bande dessinée.
La bande dessinée que vous aimiez et que vous n'aimez plus ou que vous aimez moins?
De manière générale, je pense qu'avant, j'étais très bluffée par les gens qui dessinent bien. Et notamment quand j'étais en école d'art. Et où du coup, on élève ça au rang de religion, la qualité du dessin. Et après, on se rend compte que c'est vraiment, vraiment pas l'essentiel dans la bande dessinée, qu'un dessin expressif vaut mille fois mieux qu'un dessin parfait.
Un professeur décisif pour vous?
Techniquement, j'ai eu aux Arts Déco un prof de perspective qui s'appelait Monsieur Prévost. Et on a une espèce de petite secte, les gens qui ont eu ce prof dans plusieurs écoles. Je ne sais pas si ça existe encore, un prof qui était autant un psychopathe de la perspective, qui nous a vraiment appris des choses très tangibles. Sur le dessin dans l'espace et donc le dessin tout court, des choses qui me servent tous les jours, en fait. Et lui, c'était vraiment un fou, c'est-à-dire qu'à main levée, il faisait des perspectives à 3 points de fuite d'un escalier en collimation vu du dessus. Et surtout, il faisait un truc qui était assez chouette, c'est qu'il privilégiait le dessin à la main. Il était anti-ligne droite, anti-règle, anti... voilà. Il trouvait qu'un dessin devait vibrer, devait avoir des inexactitudes et des petits repentirs.
La bande dessinée ou l'auteur ou l'illustrateur que vous avez fini par aimer, que vous avez appris à aimer?
Ben en fait, juste les classiques. Quand on commence à s'intéresser à la bande dessinée en étant adulte, on commence par lire du roman graphique. Après, on s'intéresse aux comics, aux choses comme ça. Et puis, on finit par se dire qu'en fait, si tout le monde fait tout un foin de Franquin, il y a peut-être une raison. Mais on fait le chemin inverse, en fait, des vrais fans de BD qui ont biberonné à ça depuis qu'ils sont petits. On commence par l'association et puis on termine par Franquin, quoi.
Le changement ou l'évolution que vous attendez dans votre métier?
Moi, quand j'ai commencé à en faire, il y avait déjà... La bande dessinée parlait déjà de tous les sujets. Elle était déjà une bande dessinée dite d'auteur. Il y avait déjà plein de femmes. Donc, j'ai pas vraiment connu la mutation de la fin des années 90, quoi.
Le personnage de bande dessinée que vous auriez pu être?
Quand j'étais petite, Mafalda. D'ailleurs, c'est pas très marrant parce que du coup, on a un regard un peu triste sur les choses. J'arrivais pas du tout à être insouciante et j'étais en permanence consternée par les choses qui m'entouraient. Et les adultes voulaient absolument que j'aie des préoccupations d'enfant. Et d'ailleurs, j'aimais beaucoup Mafalda.
Personnage de bande dessinée que vous auriez aimé rencontrer?
Batman. Ou assister à sa thérapie. Je pense que c'est des personnages qui ont des zones d'ombre tellement immense que je pense que c'est pour ça que Batman, c'est le super-héros préféré de tout le monde et que personne n'aime Superman.
Pénélope Bagieu, merci.
On est à quelques jours de la 42e édition du Festival d'Angoulême. Est-ce que la BD, ça représente quelque chose pour vous?
Il y a un très beau festival à Perros-Guirec aussi, j'en profite pour le dire, dans les Côtes d'Armor. Oui, j'aime bien, ouais, c'est l'évasion, l'imaginaire, de garder un petit peu une âme d'enfant.
Moi, j'adore l'illustration. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec des illustrateurs et je trouve qu'il y a une poésie...
Aurélie Saada.
Oui, il y a une poésie incroyable, on peut dire tellement de choses avec comme ça des dessins, beaucoup plus parfois que des photos.
Ben,
des...
Exactement, parce que chaque fois qu'on regarde, enfin chaque fois il y en a deux, hein, les deux albums, pas de photos sur la pochette, mais des dessins. Pour quelle raison vous avez choisi ça?
Parce que montrer sa culotte sur une pochette de disque, c'était pour nous un geste un peu militant. Et si on l'avait fait en photo, il y aurait eu beaucoup moins de poésie. Et que travailler avec un illustrateur pour montrer ça, ça avait quelque chose de beaucoup plus poétique, plus doux et peut-être plus fort en fait.
Et pour le deuxième album, où vous ressemblez à des filles du Crazy avec ce carré très reconnaissable, quelle était la direction que vous avez donnée?
Le double, la gémellité, quelque chose d'à la fois fascinant et angoissant. On pensait aux sœurs de Shining, on pensait aux demoiselles de Rochefort. Et puis c'était un peu s'amuser, essayer de se ressembler le plus qu'on pouvait. Alors que dans la vie, on se ressemble pas tant que ça. Mais c'était une déclaration d'amour. Voilà.
On va voir ça tout de suite.
Le rendez-vous.
J'ai peur de nous, j'ai pas envie de résister, j'ai peur. Tour à tour, on se tourne autour, sans jamais avoir basculé les jeux interdits, ton humour abstrait me font toujours autant d'effets.
J'adore ça. Plateau, pluriel,
mais je veux plus.
Dans le bureau, ça commence, la chorégraphie commence. Plateau pluriel avec vous, Sylvie O'Haro et Aurélie Saada, donc alias Brigitte, un groupe actuellement en tournée avec le deuxième album, À bouche que veux-tu, sous le label B Records. À propos de ce nom Brigitte, on ne dit pas les Brigitte, on dit Brigitte. Vous l'expliquez en évoquant à la fois Brigitte Bardot, Brigitte Fontaine et Brigitte Lay. Ça, on l'a lu partout, mais aussi les années 50. Pour quelle raison les années 50?
Bah les mamans, non, c'est plutôt qu'on... Nous, ce qu'on aime bien chez Brigitte, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que c'est à la fois la femme sulfureuse et puis Brigitte, c'est le prénom de nos tatas, de nos mamans, de la dame de la cantine. Ouais, et en fait, il y a quelque chose qui nous plaît assez là-dedans, qu'on trouve assez cool.
Hippolyte ?
Avant la formation de Brigitte, vous avez toutes les deux enregistré des albums solo. Aurélie Saada sous le pseudonyme de Mayanne Delem et vous, Sylvie O'Haro, sous celui de Vendetta. Pourquoi passer par des pseudonymes ?
Alors, moi, c'était le nom de mon groupe qui s'appelait Vendetta, donc voilà.
Oui, c'était plus facile,
donc, en effet.
Mais moi, c'est parce que mon petit copain de l'école, de l'époque, avec en plus, voilà, avec qui j'avais écrit ses premières chansons, m'avait dit Aurélie Saada, c'est vraiment nul. Il faut que tu changes, tu vas t'appeler comme ça. Oui, je l'ai quitté, c'est fini.
Dans divers entretiens, vous liez l'esprit de Brigitte à la psychanalyse. Aurélie, je sais que votre mère est psychanalyste, vous avez suivi une analyse pendant 10 ans. Sylvie, c'est 16 ans d'analyse avec des interruptions. C'est quoi, au final, ce rapport entre la psychanalyse et Brigitte?
C'est le lâcher prise, c'est apprendre à se réapproprier son histoire et puis en faire quelque chose de drôle. On dit que quand on a fini une analyse, on peut faire de sa vie une œuvre. Et je crois qu'en fait, nous, on essaye de faire ça. On raconte nos histoires qui sont vraiment notre réalité. On s'en amuse. Parfois, c'est nos drames dont on s'amuse. Et puis on essaye d'en faire quelque chose de poétique et puis de musical.
Avant de travailler ensemble, quel était votre registre à chacune, Sylvie Oran?
Mon groupe Vendetta, c'était plus rock en français, pop rock.
Et de votre côté, Aurélie Saada?
C'était un bazar, si vous saviez. Moi, je crois que j'étais une fille facile, très facile, et donc je disais oui dès qu'on me proposait quelque chose. Donc, du coup, je pense que c'était très fouillis tout ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait des courts-métrages, j'étais comédienne, j'ai chanté des chansons d'autres personnes, j'en ai écrit un peu, j'ai fait des comédies musicales. Je pense que j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. Je fais du théâtre aussi. Enfin, c'était vraiment. Je ne savais pas qui j'étais vraiment. Et puis, c'est venu avec Brigitte.
Benoît Lagane.
Dans un entretien des Inrecuptibles, vous expliquez avoir créé votre label B Records pour être entièrement, je vous cite, maîtresse de votre destin musical. Donc, vous co-signez la réalisation de ces chansons. En hommage, dites-vous, à Donna Summer, Véronique Sanson, Diana Ross. Comment cela devait se traduire donc sur le plan des arrangements, de l'orchestration?
Donc, de la réalisation.
Il fallait que ce soit riche. On avait envie de s'amuser. Je crois qu'on avait envie d'aller au bout de ce dont on rêvait. En tant que productrice, on s'est dit, alors on va mettre des cordes sur nos disques. Alors souvent, les gens sont assez, c'est assez onéreux, c'est un peu compliqué. Et on a fait un premier album qui a bien marché, donc on a eu plus de moyens pour fabriquer le deuxième album. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on n'allait pas mettre un orchestre juste de quatre cordes sur trois morceaux, mais qu'on allait faire quelque chose d'assez abondant. Et donc, on a convié un orchestre de 12 cordes, on a fait jouer sur quasiment tous les morceaux, il y a des cuivres, il y a des flûtes, on avait envie de quelque chose de... Voilà, ce qu'on aime dans cette musique disco, c'est qu'elle elle a à la fois quelque chose d'extrêmement léger, c'est de la musique qui vous pousse sur une piste de danse, et puis si on l'écoute au casque, si on fait un petit peu attention aux productions de Quincy Jones ou de Donna Summer ou de Diana Ross, il y a une richesse folle, il y a un vrai travail sur les arrangements, et on avait envie d'essayer de s'y coller un peu et de tenter le coup.
Pour la réalisation, est-ce qu'il y a des disques précis ou des orchestrations que vous avez réécoutées, Sylvie O'Haraud?
Réécouter pour faire la réalisation? Non, pas vraiment. C'était plus l'ambiance. On savait les chansons qui nous plaisent avec des orchestres de cordes, des arrangements quand même assez, assez riches et beaucoup d'harmonie. On n'essaye pas de faire du copier-coller. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'atmosphère et d'avoir le rythme et la sensualité qui nous plaît, nous, dans ces chansons.
Hippolyte.
Vos textes ont une dimension très 17e-iste, avec une certaine préciosité, notamment l'expression de l'album « À bouche, que veux-tu ?». Quelle est la littérature qui vous a fondé pour écrire ces textes, qui vous a aidé, inspiré?
Ah, nous, on aime bien le mélange, en fait. On a toujours dit qu'on mélangeait à la fois... On aime bien se balader dans la vieille poésie ou dans des choses un peu plus récentes. On aime bien s'amuser avec des lexiques différents, alors que ce soit un langage un peu châtié, puis mélanger ça avec quelque chose de très... avec de l'argot, avec des choses plus... des choses urbaines. On aime créer notre propre lexique, parce que je crois que c'est... C'est important d'avoir quelque chose de cohérent avec nous et c'est assez cohérent avec nous. C'est-à-dire qu'on aime bien quand il y a beaucoup de choses qui se mélangent. On est nous-mêmes un mélange.
Guillaume de Tonquédec, vous écoutez quoi, vous, comme musique?
J'adore le disco. C'est la musique de la fête, quoi. En effet, comme tu dis, dès qu'il y a Born to be Alive ou Imagination ou tous ces groupes-là ou Donna Summer, etc. Le corps ne peut pas résister. Il faut qu'on se lève et qu'on danse.
Il y a une sensualité folle, en fait.
Il y a une sensualité folle et aussi une vraie recherche musicale, un travail sur les voix comme par hasard, ça revient, les albums qui cartonnent en ce moment, comme par hasard, ça a une base aussi de disco. Hein. Mm-hmm. Donc,
Et pour interpréter dans le film justement un spectre de la rose, qui est une des mélodies hein, du cycle des Nuits d'été d'Hector Berlioz, vous avez tenu à apprendre à chanter en voix de tête, alors même que cette scène est en playback. Qu'est-ce que vous en attendiez ?
En fait, je pense que vous ne me contredirez pas, Brigitte, l'émotion passe par le souffle. Donc quand on joue, et d'autant plus quand on chante, je crois que ça m'a frappé en vous réécoutant tout à l'heure. Enfin, c'est le souffle à ce que vous faites, c'est, ça donne la chair de poule. Et je me suis dit que de faire un simple playback de Régine Crespin, ce qui me donnerait l'émotion, c'est d'essayer de trouver où elle est allée chercher ça dans sa respiration, quoi. D'essayer de respirer le morceau plutôt que de faire simplement des mouvements de bouche dessus, quoi. D'ailleurs, on le voit tout de suite quand un chanteur chante en playback, c'est beaucoup moins habité, quoi. Je me suis dit que le personnage qui se livre complètement à ce moment-là serait plus habité s'il avait le souffle du rôle.
Eh bien, on va écouter Brigitte tout de suite dans un nouvel extrait, Hippolyte.
Brigitte, je vous laisse regagner les micros. On vous écoute tout de suite en direct du studio 108 de la Maison de la Radio. Embrassez-vous, c'est à vous.
Qui est à la guitare ?
Alors, à la guitare, c'est Aurélie Saada cette fois.
Donc, les micros sont échangés. On les écoute en direct sur France Culture.
Violent, volé, pressant, pressé, largué, abandonné, indécemment flirté, sans lendemain et sans regret. Sur la bouche, sur les joues, sur le front et dans le cou, des baisers, des bisous. Des becs et des pioux. Ah, ah, embrassons-nous. Ah, ah, embrassez-vous, aimez-vous, aimons-nous les uns sur les autres. Malhabile, adolescent, rageusement posé, sans rancune et sans succès. Sur les beaux pots dans les choux, entre deux portes chez le loup, des baisers, des bisous, des pelles, des becs et des pioux. Ah, ah, embrassons-nous. Ah, ah, embrassez-vous, aimez-vous, aimons-nous les uns sur les autres. Pensez les mots sans les salé, ballot, sur ta moue et sur ta peau, se lécher le museau, comme des fous, comme des sots. Classe X, patin chaotique, élastique, tendre, érotique, faire des bisous magiques sur nos solitudes hémorragiques. Ah, ah, embrassons-nous. Ah, ah, embrassez-vous, aimez-vous, aimons-nous les uns sur les autres. Pensez les mots sans les mots. Ah, ah,
retrouvez le titre Embrassez-vous sur votre album À bouche que veux-tu, paru chez Bee Records. Et je signale que vous êtes actuellement en tournée. Vous serez à La Laiterie à Strasbourg le 29 janvier, au Stéréolux à Nantes le 4 février, au Normandie à Saint-Lô le 5, au 106 à Rouen le 6 février, au Bikini à Toulouse le 12 février et au Cirque à Amiens le 28 mars. Toutes les dates de la tournée sont disponibles sur le site de l'émission.
Donc quand on m'a mis un miroir devant moi, j'ai eu un fou rire inextinguible, c'est-à-dire mais d'émotion. J'ai été surpris par une possible femme que j'aurais pu être.
Puis c'était un peu s'amuser, essayer de se ressembler le plus qu'on pouvait, alors que dans la vie, on ne se ressemble pas tant que ça. Mais c'était une déclaration d'amour.
Merci à nos invités, merci à Brigitte, merci Guillaume de Tonquédec. Les Nuits d'été sortiront en salle mercredi prochain et je rappelle que vous êtes sur scène avec un dîner d'adieu au théâtre Édouard VII à Paris jusqu'au 28 mars. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain ?
Tu vois ça ? C'est l'Europe. C'est un pays où le moustique boit Coca-Cola.
Demain, émission Périlleux voyages et littérature avec le réalisateur Boris Lochkin et l'écrivain Lionel Duroy. La désannonce, Hippolyte.
C'était Le Rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Aïssatou Endoy et Hippolyte Babilote, Journal de la Culture aux OSFES, à la prise de son Jacques Azubert et Joël Le Ganec, à la réalisation Thomas Beau.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, mais c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors, bonne soirée à tous.